minutes. Nous sommes toujours en différé façon puzzle sonore et à peu près dans les conditions du direct depuis les studios résistants d'Ingrand Le Fresne-sur-Loire.
Ouais !
Je ne sais pas vous, mais moi, ce qui me manque le plus avec ce froid qui vous agresse quand vous déambulez dans les rues nocturnes munies de votre attestation, c'est bien cette petite vapeur qui s'échappait à une époque de votre bouche. Aujourd'hui, avec le masque, c'est plus le cas.
Non, juste on s'embue les lunettes.
Ah ouais, on s'embue les lunettes. On s'embue les lunettes.
On s'embue tout court.
On s'embue. On s'embue rien d'ailleurs, hein, j'ai l'impression.
C'est dur.
Je lui trouvais un petit truc sympathique à cette vapeur. En parlant de cette attestation, vous avez vu que parmi les choix à cocher, il y avait aller chercher votre enfant à l'école, mais qu'il n'y a pas l'emmener à l'école.
Non, je n'avais pas vu.
C'est absurde. C'est absurde. Bon, c'est à l'image de la société. Passons. Vous êtes toujours en France et vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Vos habituels complices de presque toujours sont avec vous. Linda.
Oui, je suis là, je remplis l'espace avec Julien très en forme. Hein.
Très en forme. Luc qui est presque là, on va l'entendre dans un instant. Et donc votre serviteur zélé Julien. Donc je ne vous dis pas bonjour les amis puisqu'on s'est déjà dit bonjour.
Bonjour. Bon,
re. Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend vous sortir du noir. Maintenant, générique maestro.
Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas souvent de printemps dans les rues de sa cité. Il y avait un sapin de Noël planté un peu plus loin sur le parking. Et les loupiottes qui semblaient lui dire « Va t'amuser avant que la vie te tombe dessus. » Les débuts qui marchaient dans cette neige fondue vers un camion, et lui qui la tenait comme ça dans la nuit. Comme si elle avait bu, qu'elle avait les jambes en coton, qu'il fallait qu'elle dorme dans un vrai lit. Qu'il fallait qu'elle dorme dans un vrai lit. Si je parle de ça, c'est que je me suis souvent demandé depuis ce que j'aurais pu faire de plus. Sinon la soif de force et lui faire cracher son mal de vivre, personne n'aurait jamais su. Personne n'aurait jamais su. Laissez-nous comprendre quoi tout est ainsi, et qu'on les malfaisants. On en ramasse comme ça tous les automnes, tous les hivers. Les ongles encore accrochés sur quelques lambeaux du mystère. Pourquoi s'était-elle enfuie de toute la chaleur que peuvent donner une mer du sol? Un père absent violent qui peut-être même avait tout brisé, quand même laissé du bonheur, quand même laissé du bonheur. Et la dinde a plus d'heure quand j'ai voulu m'en retourner. Tout ça m'était sorti de la tête. Comme toutes ces choses qu'on n'a jamais fini de ressasser. Alors le jour s'est levé. Alors le jour s'est levé. Comme un chacal en manque d'amour qui rêve une charogne et vient prendre la place de la nuit. Tous les arbres étaient blancs, poussent de pattes comme autant de cigognes, au-dessus de toutes ces flaques de cambouis. Au-dessus de toutes ces flaques, à chacun son démon tapis, il peut sortir de l'ombre. Voilà la seule chose que je vous suis dit. Vers un ailleurs indéfini, aux portes du hasard. La vallée dans le brouillard. La vallée. Vers un ailleurs indéfini, aux portes du hasard. J'ai vu la vallée.
Les conseils de DJ Ducloc, alias Aymeric Cloche, de l'association nantaise Fondue au Noir, vous écoutiez Fauvette de Gérard Manset, de l'album Mansetlandia, sorti en 1978. Ce qui ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, Linda? Tu écoutais cet album?
J'ai désolé, mais non, l'âge que j'avais, non.
Au sommaire de cette émission qui aime à explorer toutes les formes du noir et qui est aujourd'hui clairement orientée 7e art, une interview de l'historien du cinéma Jean-Olé Laprune à l'occasion de la sortie de l'anthologie « Le cinéma policier français », un bien beau livre érudit paru chez Hugo Images. Notre débat DVD, lui, portera sur « La voleuse » de Jean Chapeau avec les éblouissants Michel Piccoli et Romy Schneider. C'est chez Dorian Film. Luc, pour sa chronique « On n'achève pas les classiques », s'intéresse à un obscur roman de Pierre Pelot, un obscur écrivain, « L'été en pente douce ». Un roman adapté au cinéma par Gérard Krasik.
C'est l'obscurité, ça.
Gérard Krasik et en bande dessinée par Jean-Christophe Chosy. Quant à Linda et ses sueurs froides, elle nous parlera de Jessica Chastain et du film Most Violent Year.
A Most Violent Year.
Un thriller qui, rien que par son titre, résume assez bien l'année que nous venons de vivre.
Et oui, c'est un pur hasard, hein, franchement.
Mais je pense que l'intrigue est toute différente.
Ben, vous saurez ça tout à l'heure.
Eh bien, pour l'heure, on commence avec Jean-Olé Laprune. L'homme est historien du cinéma, il est aussi le fondateur de la plateforme de VOD Filmo TV. Avec le cinéma policier français, il revient en 100 films de 100 réalisateurs différents sur près d'un siècle et demi d'enquêtes, d'intrigues criminelles, de suspense terrible et terrifiant. Son histoire du cinéma policier français débute en 1901 avec Histoire d'un crime de Ferdinand Zecca. Alors, avouons-le, les premiers films vous seront probablement inconnus, peut-être à l'exception de La Chienne de Jean Renoir. C'est un film qui a été adapté d'un roman ingénieux et novateur de Georges de La Fouchardière, publié en son temps chez Albin Michel et aujourd'hui indisponible. Pas de chance. Je peux rajouter que ce film a fait l'objet d'un remake par Fritz Lang.
Ah oui?
Et on touche au sublime. Hein.
Ah là là, tu nous appâtes.
C'est ça. Mais revenons à ce petit essai précis et précieux. Jolie maquette, joli film, anecdote, autre film à voir, quelques écarts de conduite, quelques surprises, comme par exemple la présence de la Cité de la Peur. Et un sous-genre absent, mais Jean-Lé Laprune nous expliquera pourquoi la Cité de la Peur dans son interview, et je suis d'accord avec lui. Et donc un sous-genre absent, l'espionnage. Alors Jean-Olé Laprune prend parfois le risque de surprendre, mais pas au point de nous proposer Le Gendarme de Saint-Tropez. C'est donc un livre qui se picore et qui donne furieusement envie de voir des films. Et c'est un peu le but de ce genre d'ouvrage.
Ça tombe bien.
La chronologie, parce qu'ils sont dans l'ordre chronologique, amène aussi un élément intéressant. Elle permet de voir la mutation d'un genre. Un genre qui peu à peu semble privilégier la réalité à la fiction. À de rares exceptions près ces 20 dernières années, et ces mêmes exceptions seront sûrement considérées d'ailleurs comme des chefs-d'œuvre. Le cinéma policier français, c'est de Jean-Lé Laprune chez Hugo Images. Qui mieux que lui peut nous parler de son ouvrage ? Petit florilège de questions et de réponses avec cet auteur passionnant et passionné. Pourquoi le cinéma policier français ?
À partir du moment où vous vous intéressez au cinéma, vous vous intéressez au cinéma français, vous arrivez obligatoirement à un moment ou à un autre au cinéma policier, parce que, c'est ce que j'écris un petit peu au début, tous les grands metteurs en scène, et pas uniquement les grands, d'ailleurs la plupart des metteurs en scène, beaucoup de metteurs en scène, se sont essayés au moins une fois au polar, à un moment ou à un autre. Donc s'intéresser au cinéma policier, c'est s'intéresser d'une part au cinéma français, parce que c'est un genre qui traverse toute l'histoire de notre cinéma, du début du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. Et d'autre part, c'est s'intéresser également au cinéma d'auteur au sens large. Je ne parle pas uniquement du cinéma de festival, mais de la façon dont les gens utilisent un genre pour pouvoir faire passer des choses extrêmement personnelles, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de forme. Donc c'est un peu un passage obligé, je pense, de la cinéphilie, sans qu'on s'en rende compte.
Il évolue comment, le genre, au cinéma ?
Ça dépend des décennies. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cinéma policier français qui émane à une époque d'écrivains, à une autre époque qui est celle des années 50-60, elle se place du côté des truands et du côté des voyous. Je pense à la période Simonin, José Giovanni, des gens qui, le Breton, des gens qui avaient frayé avec la pègre à ce moment-là. Donc là, elle se place du côté du voleur, avec tout ce que ça peut comporter en termes de victimisation, de destin assumé, de déterminisme et autres. Et Il y a toute une autre partie, là, qui est assez illustrée, je dirais, dans les années 80, où c'est écrit plutôt du côté des policiers. Et là, on plonge parfois, donc, effectivement, dans un côté un petit peu moral, mais surtout, on plonge dans un côté social. C'est un peu frustre, hein, parce qu'on peut trouver, dans les deux cas, des exceptions, mais c'est plutôt dans les années 30, il y a des films qui sont sociaux, des films policiers français qui sont sociaux. Je pense à Justin de Marseille, je pense à Cœur de Lila. Et vous avez également des films écrits encore avec le point de vue des voyous, hein, encore aujourd'hui.
Mais dites-moi, Jean-Olé Laprune, faire un livre sur le cinéma policier français, c'est une drôle d'idée, non ?
Bien, curieusement, depuis le bouquin de référence de François Guérif dans les années 80, qui a été réédité à 2-3 reprises, le genre n'a pas été traité de façon globale dans un seul livre. C'est très curieux. Alors qu'il y a il y a beaucoup de publications, je pense à Temps Noir, par exemple, qui publie des dossiers absolument remarquables sur le policier en général et sur le cinéma en particulier. Mais à aucun moment, il y avait un ouvrage qui essayait de retracer l'ensemble du genre depuis le début jusqu'à la fin, une espèce de synthèse qui, pour moi en tout cas, avait pour objectif de montrer, de dire, ben voilà, il y a une véritable continuité dans le cinéma français et cette continuité s'exprime au travers du cinéma policier.
Comment avez-vous orienté vos choix ?
Il y a 100 réalisateurs. Alors parfois, c'est simple. Quand la personne n'a fait qu'un seul policier, quelqu'un comme Robert Guédiguian, c'est relativement pratique. Après, bah, écoutez, c'est j'ai choisi ce qui me paraissait le plus emblématique du metteur en scène, de son univers, de sa thématique, de sa façon de filmer. En ayant conscience, bien évidemment, que dans pas mal de cas, en fait, c'est parfaitement partial et que pour Henri-Georges Clouzot, choisir entre Le Corbeau, Quai des Orfèvres, Les Diaboliques, plus Les Assassins 8 au 21, enfin, il y a un certain nombre de choses, c'est embêtant. Idem pour Jean-Pierre Melville, idem pour Alain Corneau, pour citer trois figures emblématiques du genre. Donc là, c'est un choix personnel que j'ai essayé de fonder sur ce qui me semble le plus représentatif dans ce qu'ils ont fait, de plus gonflé en tout cas.
La Cité de la Peur, ça peut paraître un brin absurde dans votre anthologie, et pourtant...
Parce que c'est un polar. C'est un polar qui, on ne le sait peut-être pas suffisamment, mais les trois nuls sont Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Farrugia, sont trois cinéphiles, des gens qui connaissent très très bien le cinéma. Ils faisaient des chroniques d'ailleurs à une époque dans le studio. Et ils ont réussi, je trouve, dans ce film qui effectivement est une parodie, qui renvoie aux Frères Zuccherio, à reprendre tous les codes d'un certain nombre, pas uniquement du film policier, mais du cinéma en général et du cinéma policier. Que ce soit du slasher, que ce soit du thriller, il y a des poursuites et tout. Et comme Le Cerveau, qui est également une comédie qui est dans le bouquin, ce sont des films qui abordent le policier avec un jour tout à fait original. En l'espèce, la comédie, et avec beaucoup, beaucoup de respect et de tendresse. Et plus, c'est le plus important. Ils ne se sentent pas supérieurs au genre qu'ils parodient, en fait.
En revanche, j'ai noté l'absence du grand blond avec une chaussure noire. Sacrilège !
Là, pour le coup, on va rentrer dans un débat qui est un petit peu complexe, qui est celui de la définition. Je trouve que c'est des films qui, pour le coup, sont vraiment des films d'espionnage. Enfin, à titre personnel, que j'adore, hein, mais là, on rentre dans un autre genre où on a moins besoin de flics. C'est pas tellement des histoires de truands et de gendarmes et de voleurs, mais c'est plus des histoires d'espions. Donc là, je pense que la frontière, qui parfois est très ténue, là, je pense qu'elle a vraiment été franchie. Par exemple, pour le coup, j'ai mis La Baume Vert de Gris, qui, à la base, est une histoire d'espionnage, mais dans lequel on se fiche complètement des espions et qui se transforme en simili-film noir.
Quel est le film qui vous a le plus marqué ?
J'en sais rien. Peut-être un film d'Alain Corneau, peut-être Série Noire, peut-être Melville, peut-être Le Samouraï, enfin, des choses comme ça, parce que ce sont des films qui ont à la fois marqué le genre, marqué la carrière de leur auteur, sont des réussites, enfin, qui cochent un certain nombre de cases, hein, pour qu'ils restent mémorables et indispensables, à mon sens. Moi, je pense que c'est Série Noire, effectivement. Je pense que c'est Série Noire, qui est quand même un objet tout à fait unique dans le cinéma français. Il apparaît à un moment, au moins un acteur d'exception, qui est Patrick Devers, puisque le film a été conçu autour de lui. Et il a été conçu avec une méthode de production tout à fait originale, où tournage avec deux caméras, dans des décors réels, un vrai Pavillon, Pierre-William Glenn suit en permanence Patrick Devers. Il y a des micros à chef qui lui permettent de se promener un peu partout dans les pièces sans qu'il y ait de la lourdeur qui existait encore pas mal à l'époque dans le cinéma. Donc c'était également très novateur en termes de façon de filmer. Et d'ailleurs, ce que je constate, c'est que ça, je l'ai constaté rétrospectivement après, qu'il y a plusieurs films qui sont dedans, qui sont le fruit d'expérimentations pure et dure. Je pense au film de Christian Carion, je pense au film de Lucas Bellevaux, je pense au film d'Hélène Cattet et Bruno Forzani, qui, quoi qu'on en pense, parce que parfois c'est un petit peu radical, sont des choses tout à fait originales et marquantes.
Comment expliquez-vous que le réalisme a pris le pas sur la fiction au cinéma ?
Ça m'inspire que les flics étaient souvent sur les plateaux de tournage dès les années 80, hein, je veux dire, avec l'arrivée de Michel Alexandre, Simon Michael, M627. Il y a eu tout un virage naturaliste dans le cinéma policier français qui, dans les années 80, initié par des films comme La Balance, par exemple, qui, pour moi, c'est... Il y a deux choses. Il y a d'une part, pour moi, c'est une réaction vis-à-vis de la télévision, c'est-à-dire qu'à l'époque le polar avait fait main basse sur la télévision et pas souvent pour le meilleur, et donc avec des choses très conventionnelles, avec un truc très formaté et totalement irréel, Navarro, quoi, je veux dire, enfin, les décors de Navarro par exemple, et que donc là il y a une espèce de réaction naturaliste que seul le cinéma permet, la télévision pas tant que ça, qui aime bien les choses très formatées, très 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 propres, donc là il y a ça. Et la deuxième chose aussi, mais là c'est plus récent, qui me paraît extrêmement intéressante et dont le cinéma policier est emblématique, c'est la nouvelle façon de filmer qui a été engendrée par le numérique, où vous pouvez vous permettre des expériences aussi radicales que celles de police, de filmer 150 heures de rush, de parler aux comédiens pendant les prises, de refaire votre film au tournage et une partie au montage, qui est quelque chose qui était absolument impensable 15 ans plus tôt, enfin, je veux dire, là-dessus. Et que donc ça a été le deuxième mouvement qui est enclenché, une nouvelle façon de filmer qui n'est pas spécifique, hein, au cinéma policier français, qui est plus général, mais qui, je trouve, s'est bien exprimé. Je pense à Police, mais on doit pouvoir trouver d'autres films qui ont été tournés de la même façon. Lelouch avait initié ça, hein, Lelouch à une époque.
Parlez-nous un peu de Filmo TV. C'est quoi ?
L'ambition de Filmo TV, c'est... l'idée est très générale, mais j'espère pouvoir l'illustrer. C'est de faire découvrir des films. C'est-à-dire que les gens aiment le cinéma, ils connaissent un certain nombre de titres. Et nous, ce que j'aimerais bien, c'est que pour avoir vu... aller voir ou revoir, je ne sais pas, un film, d'un seul coup, on tombe à côté sur un autre film qu'on ne connaît pas, qu'on essaye et qu'on aime. Le cinéma policier français, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire des gens qui vont l'acheter parce qu'ils adorent Léon de Luc Besson. Ils vont tomber peut-être, je l'espère, sur Justin de Marseille. Ils disent c'est quoi ce truc, j'essaie de le voir, j'espère que ça leur plaira. Qu'il puisse y avoir des passerelles entre les différents cinémas, les différents films, les différents pays, les différents réalisateurs. C'est une ambition de découverte et de circulation. Là.
Enfin, on aborde la question cruciale et radiophonique, celle de la musique de film que nous allons écouter et que vous devez choisir. Alors, Jean-Louis Laprune, on s'écoute quel morceau ?
Touchez pas au Grisby a fait le tour du monde. Il fait partie de ces morceaux qui ont été, alors qu'il y avait un morceau qui avait été extrêmement étudié, travaillé pendant longtemps. Et celui-ci a été fait sur un coin de table par Jean Vienner en une soirée, enregistré dans la matinée. Et il a fait le tour du monde ensuite. C'est un truc très simple, très nostalgique et surtout très très bien utilisé dans le film par Jacques Becker. Donc ça me paraît être assez emblématique du genre. Sinon, il y a également celle qui est très réussie, je trouve. C'est celle qu'a faite Gainsbourg pour La Horse, qui est un film très traditionnel qui se passe à la campagne avec un patriarche un petit peu réactionnaire, et la musique de Gainsbourg arrive là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et bouscule tout sur son passage et en fait à l'arrivée un objet très 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 très, très dynamique et très très complexe. Donc j'hésiterai entre ces deux-là.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM, c'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Nous écoutions la BO du film La Horse de Serge Gainsbourg. Pour les anglophiles, horse signifie évidemment cheval. Pour les accros du truc, c'est un peu comme le chocolaté en Espagne. Et pour les gabinophiles, c'est la schnouf. Je vous rappelle le titre de son anthologie. Le cinéma policier français, c'est chez Hugo Image. Et si après ça, vous en avez votre claque du cinéma policier français, alors allez faire un tour sur la plateforme de VOD Filmo TV. Depuis début décembre, elle vous propose un festival polar made in USA des 70s. Vous hésiterez peut-être entre le détective de Gordon Douglas avec Frank Sinatra et les copains d'Eddie Coyle de Peter Yates avec Robert Mitchum. En parlant de Mitchum, je ne saurais trop vous conseiller Nice Girls Don't Stay for Breakfast, un documentaire génial sur cet acteur génial, c'est chez l'Arabia. Vous avez même une édition prestige avec un 33 tours de ses chansons. A noter également que Studio Canal ressort à bout de souffle le polar de Godard et de la Nouvelle Vague avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo, ainsi que le Cercle Rouge de Melville, à l'occasion des 50 ans de ce film d'anthologie, film avec Delon, Bourville et Montand. J'arrête là. N'oubliez pas le cinéma policier français de Jean-Lé Laprune chez Hugo Image. Vive le cinéma. Mais vous entendez cette petite musique? Eh oui, c'est l'heure de notre débat autour de la voleuse, à ne pas confondre avec la petite voleuse. J'attends avec impatience de savoir ce qu'en a pensé Linda, car je l'ai choisie spécialement pour elle.
Oh là là, tu me mets la pression là.
On écoute un petit extrait et on en parle tous les trois avec Luc après sa présentation.
Je te demande de faire le sacrifice de rendre l'enfant à Kostrovitz.
Non.
Attends encore quelques années. Qu'il ait 12 ans, en âge de raison, de choisir.
Jamais.
Tu auras un autre enfant, Julia, patiente encore.
Mais c'est pas possible, Julia! C'est pas possible!
Je m'en fous, qui ils sont?
Donne-moi la clé de cette chambre.
Donne-moi cette clé, Julia. Sa mère, ce n'est pas toi.
C'est moi! Pour moi, c'est moi, c'est à moi! Sans moi, Madame Kostrovitz n'aurait pas eu d'enfant. Pendant 6 ans, zéro, le vide!
Nous allons nous haïr, Julia.
Je le sais, je m'en fous.
Tu vas être seule avec cet enfant. Et ton remords abominable. Parce que tu ne le sais pas encore, mais tu vas le savoir ce que c'est d'aimer un enfant.
Qu'est-ce que tu en sais, toi, espèce de salaud?
Je le sais par Adèle Kostrovitz.
Et dis donc, tu nous as emmenés dans quel territoire, Julien? Tu me demandes de présenter La voleuse de Jean Chapeau, un ovni cinématographique un peu loin de ton genre de prédilection, le polar. Mais tu es pardonné d'avance. D'abord, que je vous raconte. On est dans les années 60. Le film est réalisé en 1966, dans un Berlin en fin de reconstruction, moderne jusqu'à l'insipide. Un couple, Julia Kreutz, Romy Schneider, son mari, Werner Kreutz, Michel Piccoli, sont dans leur appartement et parlent. Elle lui dit qu'à 19 ans, elle a eu un enfant qu'elle a abandonné faute de pouvoir s'en occuper. Et voilà, l'enfer vient d'ouvrir ses portes. Après cet aveu, Julia dit à Werner qu'elle veut récupérer son enfant. Elle va le retrouver, il s'appelle Mario, et vit avec un couple de Polonais, les Kostrovitz. Elle fait le siège de la maison des Kostrovitz, scène magnifique de Romy Schneider dévastée, sur le perron de la maison, qui supplie une journée durant jusqu'au milieu de la nuit, mais les portes restent closes. Radek Kostrovitz va se rendre compte qu'il n'a engagé aucune procédure d'adoption et qu'il ne peut plus le faire parce qu'il y a prescription. Mario va être rendu à sa mère, Radek, Hans Christian Bleck, va s'installer en haut d'une cheminée de l'usine où il travaille et menacé de se jeter dans le vide. Julia et Werner, reclus dans leur appartement, vont se confronter. C'est vraiment un ovni ce film, un couple devenu mythique réuni pour la première fois à l'écran, Romy Schneider et Michel Piccoli. Des dialogues signés Marguerite Duras, un noir et blanc magnifique, des décors modernes et vides qui s'opposent aux zones industrielles. Bienvenue dans le monde merveilleux de la nouvelle vague. Le réalisateur Jean Chapeau inconnu au bataillon pour moi, même si c'est lui qui a réalisé Les Granges Brûlées, avec encore une fois un couple de monstres sacrés à l'écran, le directeur de la photographie, Jean Penzer, fait des miracles, et ces deux comédiens qui se subliment et qui, de leur voix presque blanche, font vivre les dialogues de Marguerite Duras, décalés, forcément décalés. Il y a sans doute des imperfections dans ce film et il pourrait facilement tomber dans le mélo, mais Jean Chapeau, par ses partis pris au niveau de la direction des comédiens, par les choix des cadrages et de décors, sait éviter l'écueil. Apparemment échec commercial à sa sortie, ce petit film par la longueur mérite diablement le détour.
Alors Linda, tu en as pensé quoi de ce film ?
Oui, je vais te le dire. Tout d'abord, j'ai été très appâtée par le côté expérience. Tout le début, rien que le début, où elle parle, on voit Romy Schneider, qu'est-ce qu'elle est belle ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle ! Tout le film, je me suis dit, oh mais qu'est-ce qu'elle est belle ! Et on la voit déambuler et on n'a que des bribes de ce qu'elle dit parce qu'il y a la musique dessus. Toute la musique du générique. Rien que ça, je dis, oh, c'est incroyable, parce que ça crée une espèce de gêne. On a que des bribes, on veut comprendre, et ça met dans un état. Et j'ai trouvé ça déjà très, très, très judicieux. Et il y a tout le long du film, comme ça, j'ai vraiment l'impression, alors je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était dans un courant où on essayait des nouvelles choses, enfin, on se permettait, au niveau cinématographique, de faire des nouvelles expériences avec ce rapport à la musique qui est quand même très, très fort, le rapport à la langue, qui passe français, allemand. On a des allers-retours comme ça. Alors, quitte à ce que, ça date de 66, il y a des choses où peut-être j'ai eu le sentiment que c'était un poil passé parce qu'on en a vu plein d'autres depuis, mais qui se sont servis de ces années-là, en fait. Et puis aussi, peut-être une habitude d'un cinéma qui est plus fluide maintenant. C'est marrant, ça m'a fait penser à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au cinéma policier, où on avait plus des fictions, des choses construites avant, et maintenant on est plus dans du réel. J'ai ce sentiment-là dans l'évolution, en fait, un peu de façon analogue. Et quelquefois, du coup, il y a des parties prises de mise en scène qui font que c'est presque un peu figé, quoi. Enfin, il y a les rapports entre eux, ils se disent qu'ils s'aiment, mais c'est d'une froideur en même temps. C'est complètement... on est là, waouh.
Ils ont une vie éminemment triste.
Hein. Ah là là, ça tire vers le bas, c'est planté, il y a un côté... c'est ça, je trouve, de minéral, quoi. Et en même temps, ils sont puissants tous les deux, il y a... Alors, moi, honnêtement, j'ai oscillé pendant... C'est monté en progression, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, j'étais là, ouais, bon, c'est quand même... Il y avait des lenteurs, on sent ce qu'il veut mettre, la musique est presque trop présente. Enfin, en tout cas, elle est forte dans le rapport auditif, purement auditif, hein, le rapport volume de son de dialogue et volume de son de... Puis, elle est lancinante, elle revient tout le temps avec des thèmes pesants. Et au fur et à mesure du film, j'ai trouvé qu'il y avait une bascule où là, les émotions et le jeu des acteurs, ils prenaient le... Et autant je voyais le temps passer au début que la dernière demi-heure, je dis « Ah bah c'est fini !» Et ça m'a fait vraiment une espèce de montée comme ça, que j'ai trouvé...
C'est très chabrolien d'ailleurs, à ce niveau-là, parce que...
Oui, c'est possible, ouais.
T'as deux tiers du film qui passent très lentement.
C'est une espèce d'attente, la pesante.
En plus, c'est très allemand. Enfin, je dirais pas très à la Derrick, mais c'est pas loin.
Non, t'exagères.
Oui, non, j'exagère. Non, mais on a cette conjonction des choses. C'est la rencontre entre Jean Chapeau et Marguerite Duras. Mmh. Donc, quasiment entre la nouvelle vague et le nouveau roman, quelque part. Et surtout, c'est ce que tu disais, toi, sur à la fois la froideur de la réalisation et l'épure au niveau des textes.
Parce que il y a de l'épure partout, je veux dire, que ce soit dans la mise en scène, dans le décor, dans les textes. On a l'impression que tout a été, mais à l'essentiel, c'est au scalpel, quoi. Et on a juste des personnes, là, avec leurs émotions en face, c'est tout. Enfin, c'est tout.
Ouais, alors c'est pas que tout, parce que... chaque dialogue, j'ai l'impression, c'est autant de baffes qu'on s'envoie. Enfin, ils sont très forts, les dialogues.
Quand je dis c'est tout, je veux dire, oui. C'est nu. C'est ça que je veux dire. Donc, on a uniquement les corps, les voix, et c'est ça. Il n'y a pas de parasites, quoi.
Oui,
et les cigarettes aussi.
Il y a beaucoup de cigarettes.
C'est la période.
Et cette confrontation, c'est bizarre de parler de confrontation entre Michel Piccoli et Romy Schneider, puisqu'ils sont censés s'aimer.
Oui.
mais entre une qui est très exacerbée et on comprend pourquoi, c'est-à-dire elle a abandonné son enfant et ce besoin de le revoir, de maternité a posteriori qui vient et cette envie de seconde chance qu'on peut aussi concevoir. Et lui, il est là, il regarde tout ça avec froideur, il regarde ça de haut. Je sais plus, il y a un moment où il lui explique qu'en fait, il veut voir jusqu'où elle va aller dans sa déchéance. Je trouve, il sait très Michel Piccoli, ça on est d'accord, mais c'est brutal, il y a quelque chose de...
Oh, de toute façon, c'est cette réplique là où elle lui dit, mais pourquoi tu t'acharnes comme ça? Il dit, parce que je ne suis pas, tu ne m'es pas encore indifférente.
Oui, c'est ça, c'était je cherchais.
Donc je vais essayer que tu ne culpabilises pas toute ta vie, mais pour ça tu vas manger chaud là maintenant tout de suite, parce que je suis peut-être déjà dans la haine, mais je suis pas encore dans l'indifférence.
Et puis alors il y a une autre victime dont on n'a pas encore parlé, c'est Monsieur Kostrovitch, qui est le père adoptif, celui qui va menacer de se tuer parce qu'il n'a plus d'autres armes dans ses mains, qui est à la fois un personnage qui nous est étranger parce qu'en effet il parle allemand, donc on a beaucoup moins de rapports frontaux avec lui, il est beaucoup plus froid, et puis je sais pas toi, moi il me touche quand même parce que
c'est d'ailleurs, je trouve ça très bien vu que ce soit pas la maman la maman adoptive donc qui prennent les choses en main comme ça. C'est vraiment le père qui va jusqu'au bout. On va pas dire la fin, mais c'est vraiment lui qui prend les choses à cœur. Et c'est très très beau d'ailleurs quand elle, si je peux te dire cette... je sais plus les mots exacts, mais c'est un peu ça quand Romy Schneider dit à Piccoli « Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, de la mort d'un enfant? T'as pas d'enfant, de toute façon, espèce de salaud. » Il dit « Mais j'en sais de cet homme-là. Je vois jusqu'où on peut aller pour l'amour d'un enfant. » Et là, ce passage-là, espèce de grosse douche. Comme tu dis, on se prend régulièrement des grosses douches ou des baffes.
et avec le recul, en fait, parce que nous, notre rapport à l'enfant, il avait évidemment évolué en 60 ans. Moi, je me suis posé la question du « Et l'enfant ?» On lui a pas posé la question.
Non, alors, à aucun moment.
À aucun moment, on demande à l'enfant.
Rarement, si quand même Piccoli, à un moment donné, vers la fin. Mais donc, on peut pas trop en parler. Mais sinon, oui, étonnamment, on se dit... en fait, elle, en tout cas, dans ses propos, c'est uniquement par rapport aux parents. Elle se pose pas la question du bien-être de l'enfant, ça, c'est clair.
Et à travers ce film, il y a un truc qui est plus que sous-jacent, c'est... évidemment, la sexualité, le droit à une sexualité libre, le droit à avoir des enfants ou à les abandonner, là, comme c'est le cas. Et donc, en filigrane, ce qu'on va voir arriver, le droit à l'avortement. Et c'est pas anodin, quelque part, qu'on ait un scénario de Marguerite Duras là-dessus, puisqu'elle n'a pas... Marguerite Duras, elle signera le manifeste des 343. Et Romy Schneider, elle n'a pas pris position encore dans le magazine Stern pour un avortement libre et gratuit. Mais elle va le faire. Et donc, ces deux personnes féminines sont là dans une entière légitimité du truc. Je sais pas...
Ouais.
Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà,
De toute façon, c'est à une époque. C'est pas un poids qu'on a maintenant. Ça, c'est clair. Bon.
Non. Et puis, dernière chose pour moi, je ne me rappelle pas avoir vu un film où Piccoli était jeune, même jeune.
Ça m'a fait ça. Je fais, oh, il est jeune. Je l'avais jamais vu jeune, en fait, je pense.
Oui, mais il fait déjà vieux.
Ah, tu trouves?
Ouais.
Par rapport à elle?
Oui, déjà.
Ouais, par rapport à l'âge du personnage, peut-être. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont sans âge. Ils sont censés avoir 25, 30 ans, c'est ça? Mais t'as l'impression que. Mais elle le dit d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir trop vécu, d'être déjà vieille, trop jeune pour être aussi vieille, un truc comme ça.
Il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire que on le retrouve, tu vois, au volant de la voiture, en train de parler à des moments, on le voit. C'est ce qui fera 4 ans plus tard dans Les choses de la vie de sauter, et toujours avec Romy Schneider, où il sera pareil. On reverra ce même couple dans Les choses de la vie, et on verra un peu... Il y a des éléments qui, en filigrane, sont présents déjà dans les deux films, comme s'ils étaient un couple à la vie, à l'écran. Une phrase pour résumer le film.
Densité. J'ai même pas besoin. Tu vois, moi, je fais pareil avec eux. J'ai lag. Juste un mot.
Et toi, Luc?
Voilà un film fascinant, sans doute grâce à la magie de ces deux comédiens. En 1966, Michel Piccoli et Romy Schneider n'ont rien à prouver et ils se donnent à fond pour un réalisateur dont c'est le premier film. Cela doit s'appeler de la générosité. Romy Schneider est déchirante en Mère flouée et Michel Piccoli est dans la plus extrême humanité. La confrontation finale, même si elle est simpliste dans son principe et magistrale dans sa forme. Merci Julien de m'avoir fait découvrir ce petit bijou de cinéma.
Et bien voilà, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire de ce film. Je suis content, j'ai trouvé un film qui plaît à tout le monde.
Ouais.
Vous êtes bien sur le 101.5 FM, c'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir, et c'est sur Radio G. Nous entamons notre dernière ligne droite avec Linda et Luc. Linda, c'est à toi. Quelle sueur froide vas-tu nous imposer aujourd'hui ?
Je vous impose les sueurs d'une année des plus violentes.
A most violent year. Allez savoir pourquoi j'ai choisi ce film, hein. On se demande si c'est simplement l'influence du titre. C'est un film de 2014 de Jesse Chandor avec donc Oscar Isaac et Jessica Chastain, entre autres, et c'est disponible en DVD. Alors, c'est à New York, 1981, de fait, une des années des plus violentes dans toute l'histoire de la ville. Abel, belle immigrée hispanique, qui a réussi dans le transport de l'or noir, est sur le point de faire une affaire décisive pour son entreprise. Sauf que ses chauffeurs routiers se font agresser et ses camions-citernes délestés de leur contenu. Plusieurs centaines de milliers de litres de pétrole en 2 mois, indéniablement. Il prend de l'ampleur, il gêne les concurrents en place. On a le même problème avec les gâteaux. Bah si, plus il y a de monde et plus les parts sont petites. Et là, bah, pas de doute, pour stocker un volume d'hydrocarbures pareil, il faut être dans le circuit. Alors qui est derrière ? Un concurrent ? Deux. Serait-il possible que l'ensemble de ces concurrents new-yorkais aient décidé de le faire tomber et se soient momentanément alliés dans ce funeste complot ? Ah ! Ah, j'ai dit le mot complot. Non. Je me reprends. Pardon. Comment rester droit, intègre, quand tout autour de vous, ce n'est que mensonge, arrangement, pression, agression ou poker menteur? Les concurrents, certes, mais aussi la famille, les avocats, banquiers, politiques, pègres, sans oublier le puissant syndicat des chauffeurs routiers, le Teamsters, qui fait la pluie et le beau temps auprès des employés, indépendamment et bien plus que le boss de l'entreprise lui-même. Pour ceux qui n'écoutent pas toutes les émissions Calibre 58, ce qui est tout de même envisageable.
Oh non.
Si, si, je t'assure, je suis désolée de te le dire, Julien, mais certaines personnes n'écoutent pas toutes les émissions.
Mince.
Bon, voilà. J'avais parlé du Teamsters grâce au livre de Charles Brand. J'ai tué Jimmy Hoffa. Nom d'un dirigeant emblématique du syndicat assassiné par la mafia, dans les années 60. Charles Brand n'est pas romancier. Donc, c'était l'avocat de Frank Sheeran, membre de la mafia. Et ce sont donc les confessions de ce dernier, Frank Sheeran, vérifiées, recoupées avec différentes sources, dont des documents déclassifiés du FBI. Valises de billets, armes, meurtres, bref. Une mafia investie dans l'élection de président américain, je ne sais pas, on scoop. Un syndicat qui décide d'utiliser les mêmes moyens, mais en pire, pour parvenir à ses fins. Frank Sheeran réalisera a posteriori qu'il a fait partie de la boucle dans l'organisation de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Quoi ? Comment ? Ce n'était pas l'acte isolé d'un détraqué ? Complot encore ? Oh ! En vérité, je ne comprends pas l'hystérie actuelle autour de ça. Je suis désolée, l'histoire de l'homme est une collection raffinée et inventive de complots. Des hommes avides de puissance qui manigancent pour avoir encore plus de pouvoir, ce ni nouveau ni original. Bah, par contre, vous aurez remarqué que j'ai utilisé le vocable « homme » et non « humain ». Mais comme il n'y a quasiment que des hommes qui détiennent le pouvoir politique et financier, bah, je vous laisse, messieurs, l'avantage de la majorité. Et comme il n'y a que Julien en face de moi pour me contredire, j'en profite. Alors, la différence entre celui qui dénonce un complot et un complotiste, c'est que le dernier cité n'est pas en capacité de prouver la véracité de sa thèse. Mais bon, ça vaut peut-être le coup de vraiment l'écouter sur le fond dans un premier temps avant de décider s'il a raison ou pas. Vous vous souvenez les premiers qui ont voulu alerter tout le monde là, pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Ouais, les gars, les filles, les SS gazent des gens par millions, ils font des expériences génétiques sur des humains et des lampes en pot de couilles. Eh bah, on les croyait pas. Faut dire que... Non, dans cette histoire, moi, ce qui me gêne, c'est qu'au lieu de débattre, voire de combattre certaines idées, bah, on s'attaque aux personnes en les affublant d'un « ist » définitif et offusqué, fameux point Godwin sonnant la fin de toute discussion, circuler, il n'y a plus rien à dire, et moi, bah, bavarde comme je suis, qu'est-ce que vous voulez, ça me crispe. Bon, allez, j'en reviens au film. A Most Violent Year, donc. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, même si l'impératif ne marche pas avec ce type de verbe, comme, vous savez, aime, rêve, lit. Mais je vais quand même essayer. Regardez ce film. Ça marche pas bien. Non, franchement, on est tenu serré jusqu'à la fin, presque 2 heures hein, quand même, tant par la mise en scène que par le jeu des acteurs, à l'instar d'Abel, le personnage interprété par Oscar Isaac. Ah, Oscar Isaac. Allez, quand même. Oui, pardon, excusez-moi, je suis un peu émue. J'en fais vibrer la table. C'est un équilibre, tension, respiration, maîtrise du rythme. Quelle classe, monsieur Chandor. Franchement.
J'ai bien écouté ta chronique. Le film est aussi un hommage aux Incorruptibles, en fait, parce que l'idée des camions qui disparaissent dans la nature, les camions, ouais. C'est les bootleggers, ils faisaient ça aussi dans les années 30.
Oui, tu retrouves. Et cette personne qui est au milieu de tout ça et qui, avec l'énergie du désespoir quelquefois, parce que vraiment c'est une avalanche qui lui tombe dessus, qui va toujours, c'est ses propres propos, toujours essayer d'avoir la route la plus droite. Mais bonne chance.
Mais promis, on fera une thématique complotiste un jour, parce que au cinéma, le complotiste est un héros. Je pense au Fugitif avec Harrison Ford, ouais. Où il est au milieu d'un complot. Donc s'il le révèle, il est complotiste, évidemment. Et comme tu disais, c'est plus difficile de prouver un complot que de le faire, en fait.
Bah oui, non mais carrément.
Voilà, je rappelle également que pour faire un complot, il faut être 3 personnes. Je crois que c'est le minimum.
Oui, on est plusieurs à partir de...
c'est le minimum, je crois, du complot. Mais le complot au cinéma est un truc extraordinaire.
Littérature. Et il y a un super bouquin avec plein de complots dedans, si vous voulez. C'est la Bible.
La Bible n'est pas un complot.
Oh là là.
Donc, merci Linda pour cette chronique. Je pense qu'aujourd'hui, nos auditeurs ont du cinéma à voir, à revoir, à acheter, à louer. Luc, c'est à toi.
Aujourd'hui, je crains la faute de goût. Pierre Pelot, est-ce bien raisonnable ? Cet auteur logorique qui totalise aujourd'hui plus de 200 livres dans tous les genres, science-fiction, polar, western et j'en passe. Heureusement qu'il a décidé d'arrêter d'écrire. Bon, non, là, c'est une plaisanterie. Et pourtant, Pierre Pelot, dans toute cette production, a commis beaucoup de belles perles et un petit diamant, L'été en pente douce. Republié chez Folio, il est paru dans la collection Policier. Mais ce n'est pas un roman policier. C'est purement et simplement un roman noir, et vraiment très noir et bien serré, comme c'est l'habitude chez Pelot. Et je ne dévoilerai rien en disant tout de suite que ça finira mal. L'action se situe quelque part indéterminée. Une seule indication, c'est à proximité de la Haute-Saône. Conclusion, l'indéterminé est nécessairement pas loin de Saint-Maurice-sur-Moselle, grotte, tanière, refuge de Pierre Pelot. Mais l'indéterminé en question pourrait être n'importe où ailleurs, en plein cœur de l'Oklahoma chez les Rednecks, au cœur de la toundra russe ou dans les montagnes du nord de la Chine. Mais foin d'exotisme, c'est bien en France, au fin fond des Vosges, que l'action se déroule. On y vit tant bien que mal et plutôt mal que bien, et on y boit beaucoup, vraiment beaucoup d'alcool. Fan se pense différent et il n'aspire qu'à une chose, qu'on lui foute la paix. Il s'éprend de la sulfureuse Lila, une voisine qui se fait tabasser par son compagnon. Ils vivent ensemble, c'est l'été, il fait chaud, très très chaud. Un jour, Fan découvre dans le journal que sa mère est morte, renversée par un camion sur la route qui traverse la ville qu'elle habite. Il se rend à l'enterrement en 2 chevaux avec Lila. Ils vont habiter dans la maison de sa mère où demeure aussi le frère de Fan, Mo, l'idiot du village, bloqué dans l'enfance suite à l'explosion d'une grenade avec laquelle il jouait et qui a aussi brûlé Fan au visage et à la main. La maison de la mère de Fan est convoitée par 2 frères, Vok et Olive, garagistes. Tout est posé. Une petite ville de province, une jeune femme dont l'allure exacerbe les désirs refoulés des hommes, deux garagistes prêts à tout pour capter une maison, et un idiot, et au sommet, Fan, qui se rêve auteur de romans policiers, qui s'achète une machine à écrire pour réaliser son fantasme et qui boit bière sur bière. L'été en pente douce, c'est poisseux, gluant, torride. Tous les personnages transpirent en permanence. Pierre Pelot, qui vit à Saint-Maurice-sur-Moselle, il la connaît bien, cette campagne vosgienne, et il ne lui fait pas de cadeau. Aucune compassion pour ses héros qui sont tous des paumés, même s'il expose bien les raisons qui les ont conduits là. La désindustrialisation, le chômage, l'alcool, la misère culturelle. En cela, il dessine parfaitement les contours de notre république jacobine et centralisée, barricadée dans ses centres urbains, et pour qui la périphérie n'est que le marais, le lieu des non-êtres, des non-hommes, de la boue, même pas de la plèbe, seulement du lumpen prolétariat. L'alcool commande tout. Comment font Fan et Lila pour penser avec tout ce qu'ils ingurgitent ? Mystère. À certains moments, ils apparaissent comme des loques impuissantes, jusque dans leurs rapports amoureux qui avortent systématiquement. Et toute l'action se déroule sous les yeux de Mo, l'idiot, le débile, mais dont la présence de Lila donne la possibilité à ses désirs de s'exprimer. Avec un art consommé, Pierre Pelot fait monter la tension, un peu à la manière d'un démiurge. Il manipule ses personnages, les pliant à sa volonté, les conduisant à la violence inéluctable. Manipulant aussi ses lecteurs en les induisant dès le départ sur une fausse piste. Non, son été n'est pas en pente douce. On est plutôt embarqué sur une piste de ski niveau de difficulté noire. Et cela ne peut conduire qu'à la catastrophe, ces personnages étant tout le temps out of control. Lire Pierre Pelot, c'est entrer dans de la matière littéraire. Il n'y a jamais de brèche, jamais rien d'inutile. C'est étrange, cet auteur qui croit encore à l'écriture et pour qui le mot est si important qu'il ne peut pas être pris à la légère. Pour Pierre Pelot, on n'écrit pas impunément ou alors on n'écrit pas du tout. Lecture hautement recommandable que cet été en pente douce. Pour qui n'a jamais lu Pierre Pelot, ce qui est totalement impardonnable, qu'il s'attende à prendre une sacrée claque. C'est l'été en pente douce. Cet Pierre Pelot s'est édité chez Folio dans la collection Policier et c'est à déguster sans modération.
Quelques brèves. On a appris la mort de John Le Carré, cet ancien espion et diplomate dont la couverture avait été détruite par un certain Philby, était connu pour son agent George Smiley. Auteur d'une vingtaine de romans, dont L'espion qui venait du froid et La Tour, John Le Carré était également un maître complotiste. Plongez-vous dans ses romans, ils sont à la fois terribles et jouissifs. Laurent Petit-Mangin a obtenu le prix Femina des lycéens pour son roman « Ce qu'il faut de nuit », une histoire de fratrie dans l'est de la France, une histoire de fratrie qui tourne mal. Laurent Petit-Mangin a un style très épuré, son intrigue est malheureusement classique, ce qui donne une dimension à l'histoire très intéressante. Il y a surtout les trajectoires opposées des deux frères avec en trame de fond le militantisme politique et son héritage. C'est à la manufacture de livres. Franck Bouys remporte lui le prix Jean Giono, ce qui n'étonnera personne vu que les deux auteurs ont une écriture très minérale. Buveur de vent n'est pas à proprement parler un polar, mais un roman de la terre, plus exactement d'une vallée perdue au milieu des montagnes. Et là aussi, il y a une fratrie qui travaille, elle, dans une carrière et un barrage. Buveur de vent, c'est chez Albin Michel. Les éditions Rivage rééditent la trilogie de Lloyd Hopkins, le super flic qui a assis la notoriété d'un certain James Ellroy. Les romans n'ont pas pris une ride. Attention, cependant, c'est terrible à lire.
Alors, pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses, le site de Radio G, bien sûr, et sa page dédiée à notre émission, et la page Facebook Calibre 58, promis, je la mets à jour très vite. On ne vous dit pas dans 15 jours, le 29 décembre, on vous propose une émission conjointe et surprenante avec nos amis imaginaires, ceux qu'on a dans notre tête, comme on dit. On vous dit donc à l'année prochaine.
Mais sinon, on va bien.
Sinon, on va bien. D'ici là, également, portez-vous bien. Faites de bonnes fêtes dans la cuisine ou dans le salon. On ne sait pas trop.
Faites ce que vous voulez.
Faites ce que vous voulez. Salut Linda, salut Luc.
Salut à tous.
Et encore merci.
Radio G 101.5 FM.
Always in God's eyes.